Je vais vous parler de questions génocide culturel et de sa préparation en droit international. C'est un sujet très, très important, très controversé aussi. On va voir, on va voir ça aujourd'hui. Elisa est chercheure invitée au service et elle s'implique également à l'assidu, à la clinique, comme case manager et comme superviseur d'équipe. Depuis l'automne. Elle est doctorante, elle fait son doctorat à l'Institut universitaire européen de Florence en Italie sur le thème du génocide culturel sous la direction de Francesco Franchelli et Dirk Moses. Elle a fait des études de master en droit européen et en magistère en relations internationales et actions à l'étranger de l'Université de Paris 1, Sorbonne. Et elle a également travaillé pour le Bureau bruxellois de l'International Center for Transitional Justice. Alors, merci beaucoup, Elisa, de nous parler aujourd'hui de ton sujet de thèse. Et puis, on va prendre une trentaine de minutes pour écouter Elisa. Et ensuite, on aura une discussion. Alors, je vous remercie d'être venu. Je remercie l'assidu, le service et particulièrement Charles qui nous a aidé à organiser cet événement.
Merci. Je voulais aussi remercier le CIRDIS et la CITU et Charles pour avoir organisé, puis aussi pour m'accueillir de manière générale ici. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une bonne partie de mon sujet de thèse, en fait, qui porte sur la question du génocide culturel en droit international, et je vais me pencher de manière plus particulière sur la question de la réparation. À première vue, ça ne va pas forcément aller de soi, puisque c'est un concept qui n'est pas reconnu en droit international. Mais comme je vais vous le montrer, on a eu une évolution du droit international qui, sans toutefois couvrir en tant que telle la question du génocide culturel, va quand même aborder un certain nombre d'éléments qui, finalement, ça aborde une bonne partie de la question. Alors, c'est quoi le génocide culturel ? Si on regarde dans les médias, ça peut être beaucoup de choses. On en parle beaucoup pour le Tibet. On en parle beaucoup pour la question des peuples autochtones dans diverses parties du monde, notamment au Canada. On en a parlé pour la destruction des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Donc là, on est dans un autre registre qui est la destruction du patrimoine culturel. Et puis, si on fait une recherche Google, on va avoir une liste vraiment énorme de possibilités. Donc, c'est un thème qui est très large. C'est un concept qui n'est pas vraiment bien défini. Et c'est notamment lié au fait qu'il soit fondé sur la question culturelle. Et la culture, c'est quelque chose de très large qui se définit en anthropologie comme un mode de vie. Donc, ça peut recouper beaucoup de choses. Donc quand on pose la question du génocide culturel en droit international, on pourrait penser a priori que la question c'est celle de la codification du génocide culturel et voire plus la criminalisation du génocide culturel puisqu'il y a l'écho du génocide qui vient derrière. C'est pourtant pas la question que je pose puisque comme je vous l'ai dit, le droit international a beaucoup évolué. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les défis que ce concept pose au droit parce que c'est quand même un concept qui, malgré le fait qu'il soit ambigu, qu'il soit mal défini, va recouvrir une certaine forme de consensus sur la légitimité du concept, sur le fait qu'il vient quand même désigner quelque chose qui est particulier, qui est plus que la simple violation des droits culturels, on va dire. Donc, la structure de la présentation va être telle quelle. Donc, d'abord, je vais vous retracer rapidement, plus ou moins rapidement, l'historique de cette question en droit international, et voir un peu les évolutions tant du concept, pour voir un peu plus de quoi on va parler par la suite, que les évolutions du droit international. Et donc, comme je vous le disais, on commence à avoir ce qu'on appelle des normes primaires, donc des obligations vis-à-vis des États qui commencent à être bien posées en termes de protection des droits culturels et de l'intégrité culturelle de groupes humains. Et même, on commence à avoir une évolution au niveau de la criminalisation internationale d'attaques contre la culture, ce qui permet dorénavant de poser la question de la réparation. Parce que la réparation en droit international sont des obligations qui sont secondaires. Donc il faut d'abord qu'on ait des normes qui soient posées. Or, quand on en vient à la réparation, ce que j'appelle le dommage culturel, donc qui ici est limité aux situations dites de génocide culturel que je vais vous expliquer dans un instant, on n'a pas encore grand-chose finalement, parce que c'est une question qui a été beaucoup reléguée, puisque la culture est souvent considérée de manière secondaire en droit international. Donc ça va être une étude un peu plus prospective, il n'y a pas forcément peut-être plus ouvrir de questions que répondre. Mais je vais regarder donc déjà qu'est-ce que c'est que le dommage culturel, de quoi on parle exactement pour savoir qu'est-ce qu'on veut réparer. Ensuite, regarder le cadre juridique international, est-ce qu'il apporte des solutions ou pas en l'état. Et puis, ouvrir avec des défis un peu plus pratiques en regardant le cas de la Bosnie-Herzégovine. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce cas par la suite. Donc, s'agissant de l'évolution conceptuelle du génocide culturel, en fait, tout a commencé avec ce monsieur que vous voyez ici, qui s'appelle Raphaël Lemkin. Raphaël Lemkin, c'était un juriste polonais, et c'est important de savoir, c'est un juriste juif polonais, et qui a réussi à fuir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que toute sa famille a été exterminée. Donc, on parle de 50 personnes. Et c'est cette histoire familiale qui va être très importante dans ce qui va s'en suivre. Puisque donc, quand il arrive aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il entreprend un travail vraiment colossal qui est de répertorier toute la législation de l'Allemagne nazie et plus généralement des puissances dites de l'Axe sur les territoires occupés européens. Et il s'intéresse particulièrement à la législation qui vient réprimer des minorités nationales et pas seulement les peuples juifs. Donc il a une vision vraiment très large. Il a quelques chapitres de synthèse et il y en a un qui va être fondateur, qui est le chapitre du génocide. Et avant 1944, ce terme n'existait pas, on ne parlait pas de génocide. Donc c'est un néologisme à l'époque et il définit le génocide comme un ensemble d'actions concertées qui visent à saper les bases essentielles d'un groupe. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais en fait c'est toujours donc un travail qui est fondé sur une étude empirique. Et il a identifié plusieurs techniques de génocide. Donc le concept de génocide est un concept générique qui dépend de plusieurs techniques qui vont être mises en œuvre de manière ou pas coordonnée. Donc les techniques, il y en a 8. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais les plus importantes, c'est la technique physique, celle dont on va parler le plus communément, qui va être l'extermination, le meurtre de masse. Il y a la technique biologique. Donc là, on parle plus de stérilisation forcée, d'empêcher le groupe de se reproduire. Puis il y a d'autres techniques, et puis il y a la fameuse technique culturelle. Et c'est de là que le génocide culturel vient. À l'époque, le génocide culturel, c'était qu'une technique de génocide. Ce n'était pas un génocide en soi. Mais Lemkin est quand même ambigu, il apporte beaucoup... Il est très concerné par cette question de génocide culturel, notamment parce qu'il l'a beaucoup observé dans son pays d'origine, qui est la Pologne, avec la restriction sur la vie culturelle, sur la langue, etc. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, ce monsieur part dans ce qu'on a appelé une croisade, et c'est vraiment le cas. Il va dans la toute nouvelle Assemblée des Nations Unies et il décide qu'il veut une convention sur le génocide. Et cette convention, encore une fois, on la retrace à un seul homme, c'est lui. Et pour vous dire, à Nuremberg, on n'a pas jugé des crimes de génocide, on a jugé des crimes contre l'humanité. Et si on a une convention sur le génocide, c'est parce que lui, il voulait, sinon il n'y aurait rien eu par la suite. Et donc, un comité d'experts, il va réussir à ce qu'un comité d'experts soit nommé pour élaborer une convention sur le génocide, et parmi ces trois experts, on trouve qui ? On trouve M. Lemkin. Et il réussit à intégrer une disposition dans cette ébauche sur le génocide culturel. Donc ces 8 techniques sont réduites aux 3 principales que sont le génocide physique, biologique et culturel. Et cette disposition va être une des dispositions qui va créer le plus de tensions au sein de la discussion. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci va être particulièrement discutée. Et on va déjà voir autour de cette disposition les dissensions de la guerre froide qui vont apparaître entre le bloc de l'Est d'un côté et puis le bloc dit occidental de l'autre qui est contre la disposition. Alors la disposition, elle n'est pas unique, elle a pris plusieurs formes. Celle qui a été majoritairement discutée, c'était un projet qui visait à criminaliser les attaques contre la culture et la religion d'un peuple, en particulier contre les restrictions linguistiques imposées à ce groupe, et également les destructions du patrimoine culturel, qui est finalement ce qu'on retient le plus de cette technique. Donc la disposition va être rejetée après de grandes discussions, et parmi les arguments qui vont être avancés contre la disposition, on va aussi avoir des États, notamment le Brésil, qui vont dire qu'on ne peut pas avoir une disposition sur le génocide culturel, sinon on ne pourrait pas assimiler nos minorités. Ce qui est exactement le cas, sauf qu'à l'époque, ce n'était pas perçu de manière aussi claire que ça. Et l'autre argument, c'est de dire que ce n'est pas un crime, c'est une question de droit de l'homme, ça doit être négocié dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Convention sur le génocide et puis la Déclaration vont être adoptées à un jour de différence. Donc elles sont négociées en même temps. Et donc, en même temps, on a une disposition un peu jumelle de la disposition sur le génocide culturel qui est négociée, qui porte sur le droit des minorités, et notamment le droit des minorités à la vie culturelle, et qui va être également rejetée par les mêmes pays qui avaient argumenté que c'était une question de droit de l'homme. Donc on se retrouve en 1948 avec finalement rien sur la question du génocide culturel, mais on a cette définition qui est la définition du génocide à l'article 2 de la Convention, donc adoptée en 1948. Et cette définition, on va juste s'arrêter un tout petit instant dessus. On voit qu'elle est composée de 2 parties. Il y a les paragraphes A à E qui sont les actes de génocide, donc le paragraphe au-dessus qui est l'intention de commettre le crime. Donc c'est un vrai crime, c'est un crime, ça veut dire qu'on cherche des auteurs individuels. Je vous ai mis en gras en particulier le paragraphe E, puisque c'est le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, et ça, c'était une disposition qui était contenue dans la première disposition sur le génocide culturel, qui a été négociée. Et finalement, ça a été réintégré à la toute fin, quand on a vu que la disposition de génocide culturel serait rejetée. C'est la Grèce qui a dit, mais non, mais en fait, c'est du génocide biologique, on peut le mettre dedans. Mais ce statut un peu hybride va vraiment coller à ce paragraphe, et ça va être intéressant par la suite. Et donc la partie du dessus, c'est l'intention de détruire un groupe, donc c'est ce qu'on appelle l'intention spéciale, puisque c'est pas un crime comme les autres. Le génocide, c'est pas seulement qu'on veut commettre des actes qui sont AAE, mais c'est aussi qu'on veut détruire un groupe. Donc c'est extrêmement difficile à prouver en pratique. Et ça va aussi être l'intention de détruire un élément qui va être beaucoup discuté pour éventuellement réintroduire la perspective culturelle du génocide par la suite. Donc après 48, le concept continue de tourner un peu autour du droit international, mais sans forcément le réintégrer. On a d'abord une évolution conceptuelle qui va aller du génocide culturel vers l'ethnocide, qui va être amenée par des anthropologues, Robert Jolin et puis Pierre Clastre, sur la base d'études qu'ils ont faites en Amérique latine sur les populations autochtones. Et c'est une dénonciation vraiment de l'emprise capitaliste sur les peuples autochtones et le fait qu'ils sont en train de perdre leur culture à cause des gouvernements locaux et puis des entreprises déjà multinationales. Dans les années 70-80, il ne se passe pas grand-chose, mais le concept continue un peu à évoluer, puis les autochtones continuent à se l'approprier petit à petit, puisqu'il y a un mouvement international qui commence à arriver. Et là, c'est dans les années 90 qu'on a une vraie revitalisation juridique du concept, et ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas juste être l'ethnocide, ça ne va pas être juste la nouvelle définition, ça va être les trois définitions qui vont apparaître, et donc c'est là où on voit que le concept de génocide culturel est complexe. On a d'abord la fameuse technique de Lemkin qui revient et qui revient dans le cadre des procès relatifs donc, à ce qu'on a appelé le nettoyage ethnique dans les Balkans et en particulier en Bosnie-Herzégovine. Et c'est intéressant, c'est de voir que c'est quelque chose qui avait été commenté, donc c'est la doctrine beaucoup qui a employé le terme, pour décrire la campagne de destruction systématique du patrimoine culturel et religieux là-bas. Mais le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie va aussi utiliser le concept. Donc ça, je vais y revenir un peu plus longuement par la suite. Le deuxième cas de revitalisation juridique, ça, c'est en relation avec les transferts d'enfants forcés d'enfants autochtones en Australie et au Canada. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un acte de génocide. Après, il reste à prouver l'intention, ce qui est très compliqué. Mais le statut de génocide culturel a beaucoup collé à ces actes de transfert forcé. Et donc, il y a eu quelques procès qui ont été intentés par des victimes de ces transferts contre les États, contre les dirigeants. Les procès n'ont jamais abouti en termes de réparation ou en termes de reconnaissance du génocide. Par contre, on a des commissions de réconciliation et vérité dans ces deux pays, Australie et Canada. Et en Australie, la commission a fini son travail en 1997 avec un rapport dans lequel elle a conclu que c'était des crimes de génocide. Et elle a conclu que c'était un génocide, pas culturel, mais sur la base d'éléments culturels qui étaient le fait que les enfants étaient retirés à leur famille, coupés de leur famille, coupés de leur communauté, et qu'on avait vraiment une rupture intergénérationnelle et que là, du coup le groupe disparaissait, mais sans forcément porter atteinte à l'intégrité physique des populations autochtones. Sachant qu'il y a un contexte beaucoup plus large, évidemment, de crimes commis contre les peuples autochtones. Le troisième élément, c'est ce fameux concept d'ethnocide qui n'est pas très bien défini. C'est l'idée, donc, effectivement, que si le génocide, c'est la destruction d'un groupe physique, et bien l'ethnocide, c'est aussi la destruction d'un groupe, mais culturel. C'est un concept qui est extrêmement controversé parce que ça repose sur des bases anthropologiques assez discutables. C'est ce qu'on appelle la réification des groupes. Ça voudrait dire que le groupe n'existe qu'avec sa culture. Or, on sait que les individus ont plusieurs cultures. Mais c'est un concept qui fonctionne assez bien pour décrire l'expérience vécue par les peuples autochtones et notamment en Amérique latine. Pas seulement, mais c'est notamment en Amérique latine qu'on en a beaucoup entendu parler. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, qui est adoptée en 2007, à l'origine, il y avait une disposition sur l'ethnocide et génocide culturel, et qui prévoyait que, donc c'est celle que je vous ai reproduite, sauf qu'au lieu d'avoir assimilation forcée et destruction de leur culture, on a le droit de ne pas subir le génocide culturel et l'ethnocide. Encore une fois, on a eu énormément de discussions sur la question, et puis finalement, les peuples autochtones participaient à la négociation de cette déclaration. Et finalement, c'est le Canada qui a proposé cette formulation qui a été acceptée et qui constitue une paraphrase assez fidèle de ce qu'est le génocide culturel et l'ethnocide. Donc, ce n'est pas forcément que le concept a été rejeté en soi, mais c'est qu'on voit qu'il n'y a pas forcément besoin d'employer ces termes-là directement en droit. On peut utiliser d'autres concepts. Donc, ce qu'on voit aussi avec cette évolution conceptuelle, c'est déjà, on voit que ce n'est plus seulement un crime, que c'est beaucoup une question de droits humains. Et c'est vrai qu'en 1948, on a formulé ça comme c'est soit un crime, soit des droits de l'homme, mais en fait, finalement, ça peut être les deux, et l'évolution du droit international le montre. Donc les termes du débat sont plus du tout les mêmes qu'en 1948. On n'a plus un seul concept, et surtout, on n'a plus le même droit. Donc j'en viens à l'évolution juridique, à l'évolution du droit international. Je ne vais pas vous refaire toute la liste des normes, mais il y a eu vraiment une évolution assez importante, d'abord de la protection des cultures, et aussi la protection des groupes humains. Ce qu'on avait rejeté en 1948, donc notamment les pactes des Nations Unies sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, et tous les instruments universels et régionaux incluent des dispositions sur la protection culturelle ou en tout cas des formes un peu détournées. Donc c'est présent dans tous les instruments. Par contre, pendant longtemps, c'était considéré de manière secondaire, c'était pas très important la culture. Et puis dans les années 90, toujours, on a un mouvement de rééquilibrage où on considère que les droits humains sont indivisibles, que la notion de catégorie de droits humains, donc en socio-économie, culturelle, etc., c'est pas forcément pertinent, et surtout que les droits culturels ne sont pas particulièrement secondaires. Donc les États se voient imposer désormais des obligations positives de protéger les cultures et pas seulement de ne pas interférer dans les cultures. Et puis on a surtout l'émergence de nouveaux droits qui viennent répondre un peu à la problématique du génocide culturel. Alors, ce ne sont pas encore des droits très ancrés, ce n'est pas forcément nécessaire qu'ils le soient parce qu'ils sont difficilement justiciables. C'est le droit à l'identité culturelle et c'est le droit à l'existence collective. Ce sont des droits qu'on trouve dans la jurisprudence, notamment de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et également de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et qui sont mentionnés beaucoup dans des cas impliquant des peuples autochtones ou des populations tribales, et notamment en relation avec la terre, avec le fait que quand les populations n'ont plus accès à leurs terres, ça va porter atteinte non seulement donc à leurs moyens de subsistance, donc à leur existence physique, mais également à leur existence spirituelle, au rapport avec la terre, avec les ancêtres. Et ça, c'est un concept qui a émergé, qui est de plus en plus reconnu et qui a un impact notamment au niveau des réparations par la suite. Donc on prend en compte de plus en plus le dommage culturel que des violations de droits humains qui ne sont pas forcément culturels vont causer. On a une deuxième partie sur la protection des cultures qui est l'évolution du patrimoine culturel, et je vais passer assez vite là-dessus. Mais le patrimoine culturel, à l'origine, c'était les monuments culturels, religieux, etc. Puis ça a évolué petit à petit déjà par une reconnaissance en temps de paix de la nécessité de protéger ce patrimoine, également la nécessité de protéger le patrimoine immatériel, pas seulement les monuments. Et le patrimoine immatériel, ça revient encore beaucoup à la question des peuples autochtones, puisque c'était une revendication de dire que finalement, le patrimoine matériel, c'est plus les cultures occidentales, pas seulement, mais surtout, et nous, notre culture, on n'a pas vraiment de moyens de la protéger. Ça recoupe beaucoup les droits humains et on a également l'émergence d'un droit, mais c'est encore émergent, d'un droit au patrimoine culturel et notamment matériel. Je vais passer là-dessus et j'en viens à la question de la criminalisation qui était si importante en 1948. Donc comme je vous l'ai dit, la définition sur le génocide n'a absolument pas évolué, elle n'a jamais été renégociée. Donc on l'a remise telle quelle dans tous les statuts de tribunaux pénaux internationaux. Et c'est dans les années 90-2000 qu'on s'est retrouvé à l'utiliser pour la première fois. Et notamment par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, donc dans le cas des crimes commis dans les Balkans. Et dans cet arrêt que je vous ai reproduit un petit paragraphe, le tribunal se pose la question de savoir si ce qu'on appelle communément nettoyage ethnique, ça peut être qualifié de génocide. Alors là, on est dans le contexte de Srebrenica, où ce n'est pas seulement des transferts forcés de population, c'est aussi un massacre. Mais il s'intéresse à comment intégrer ce transfert forcé de population dans la définition. Et ils vont prendre pour partie de se caler sur le débat sur le génocide culturel. C'est assez contestable, mais donc ils en concluent la première partie en gras, en gros, c'est que le concept d'ethnocide n'est pas reconnu. Donc le génocide, c'est l'intention de détruire un groupe physiquement ou biologiquement. Par contre, quand on revient à la technique de génocide, ça peut être utilisé comme un élément pour établir l'intention de détruire un groupe. Donc c'est une preuve. Donc c'est utilisé comme preuve, ceci dit, ce n'est pas un statut en tant que tel pour ces crimes-là. Le statut, au niveau du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il y avait les crimes de guerre. C'était déjà des crimes de guerre, c'était pas très compliqué. Le problème, c'est que le crime de guerre ne prenait pas vraiment en compte l'aspect humain de la destruction, qui était qu'on n'a pas juste détruit des monuments parce que c'était la guerre et qu'on a mal visé, c'était qu'on les détruisait de manière intentionnelle. Et c'est pour ça que la rhétorique du génocide culturel est très importante en la matière. Et finalement, c'est le crime contre l'humanité de persécution qui a été revitalisé. C'était le crime qu'on employait à Nuremberg pour tous les crimes commis contre la population juive. Et donc ce crime contre l'humanité de persécution a été utilisé pour criminaliser les attaques intentionnelles contre le patrimoine culturel et religieux. Donc je vous ai mis deux arrêts en référence, mais il y en a peut-être une quinzaine. Donc c'est systématiquement, on a utilisé ce crime. Et ce qui est intéressant, c'est que ce crime, il a été défini par la suite, à l'époque il n'était pas très défini, comme la violation de droits fondamentaux qui porte atteinte à l'identité d'un groupe et avec une vocation discriminatoire. Ce n'est pas exactement les termes, mais c'est ça. Donc on voit la dimension humaine qui réapparaît de plein fouet et qui fait que le crime contre l'humanité de persécution devient finalement la réponse internationale pénale au crime de génocide culturel, beaucoup plus que ne l'est le crime de génocide. Puis on a aussi une affaire devant les chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens, l'affaire numéro 2. Je vous la mentionne rapidement parce que dans cette affaire, il y a des actes qui ont été criminalisés comme persécution et ça ne porte pas que sur la culture matérielle, mais aussi sur la culture immatérielle. Donc on reproche aux dirigeants Khmer Rouge d'avoir détruit la culture Khmer dans son ensemble et pas seulement détruit des temples bouddhistes. Par contre, il y a peu de chances qu'il y ait un jour un arrêt sur cette question précisément, mais ça reste intéressant de le mentionner. Donc c'était tout. C'est pour ça que je vous dis que, d'après moi, on a un bon ancrage de cette question de génocide culturel dans des normes qui ne s'appellent pas génocide culturel, mais qui répondent assez bien à la question et qui répondent de manière assez complète, finalement, tant sous l'angle des droits humains que sous l'angle du droit international pénal. Donc on n'a pas un concept, on en a beaucoup. Et on a plusieurs outils. Et donc ça en vient à la question assez logique de, bon, si c'est reconnu comme étant une violation du droit international, a fortiori un crime, comment on le répare ? Et là, c'est là où il n'y a pas encore grand-chose, pour être honnête, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on peut commencer par déjà savoir qu'est-ce qu'on entend réparer, ce qui est une vraie question, parce que tout le droit international, notamment pour la réparation, est fondé sur l'idée de la... alors, en latin, restitutio in integrum, ça veut dire qu'on replace la victime dans sa situation d'origine si elle n'avait pas, ses droits n'avaient pas été violés. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde ce fameux dommage culturel qui est déjà à beaucoup de facettes ? C'est pas évident. Quand on parle du patrimoine culturel matériel, on est vraiment dans cette problématique de réparer l'irréparable, et ce qui est absolument pas propre à ce dommage-là. Beaucoup de violations de droits humains sont difficilement réparables, mais la question se pose aussi pour ce patrimoine, puisque la notion même de patrimoine, c'est qu'il y a une histoire derrière. C'est pas seulement des pierres, c'est une histoire, c'est une esthétique, etc. À partir du moment où le monument va être détruit, on pourra difficilement juste le reconstruire. Ça va jamais être à l'identique. Donc c'est une vraie question qui se pose et ça met beaucoup en œuvre, enfin ça mobilise beaucoup des architectes en fait qui se sont beaucoup impliqués dans le droit international à ce niveau-là pour essayer de voir comment on peut jongler entre le besoin d'authenticité puis le besoin aussi de réparer. La deuxième question, c'est pour le patrimoine culturel donc immatériel, donc encore une fois toutes, par exemple les langues, par exemple des pratiques culturelles, etc. Déjà la destruction n'est pas la même, c'est pas un acte unique. Comme on va détruire une mosquée, ça va être sur un long processus. Donc les victimes ne sont pas forcément non plus les mêmes. On est vraiment encore plus dans la dimension intergénérationnelle qu'on l'est sinon. Donc déjà, trouver le mot pour parler de la réparation n'est pas évident. Donc il y a un mot qu'on trouve dans différents documents de droit international qui est la notion de revitalisation, qui n'est pas utilisée en termes de réparation, mais qui pourrait s'appliquer avec l'idée qu'effectivement, donc on le trouve dans la Déclaration internationale sur les peuples autochtones, sur les droits des peuples autochtones, et l'idée que donc ces populations ont le droit de revitaliser leur culture. Cela dit, ce n'est pas du tout défini, et ça pose encore le problème de la réification des groupes et de leur culture avec la possibilité que certains groupes viennent réintroduire des pratiques qui finalement n'étaient pas en vigueur, ou etc. Donc ça a aussi un autre débat. Puis l'autre spécificité du dommage culturel, c'est que depuis le début, on parle de communauté et de groupe. C'est la dimension collective. Et là, quand on vient dans la réparation, c'est pas complètement incompatible, mais c'est un autre défi. Le dommage, c'est un dommage donc, qui est posé aux individus qui ont droit à réparation, qui est posé aux communautés qui ont droit à réparation, mais c'est un dommage qui touche la société dans son ensemble. La société dans un pays, mais on parle aussi de diversité culturelle. On parle beaucoup de dommage qui est causé à l'humanité. Donc ça aussi, ce sont des dimensions qui sont difficiles à réintroduire dans la réparation. Et puis ça pose la question donc, de la réparation collective en soi, et là c'est plus sur des modalités techniques qui sont assez difficiles à élaborer, rien que de définir le groupe à qui on va accorder une réparation, comment on décide du contenu, etc. Donc ça sont les défis, et c'est ce qui montre qu'une approche purement restauratrice, comme on a tendance à utiliser en droit, est pertinente, mais ne peut pas se suffire à elle-même. Il faut aussi avoir une vision peut-être un peu plus futuriste, Et c'est là que je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est vrai que les théories de justice transitionnelle sont utiles dans le sens où ça permet de remettre le dommage dans une perspective beaucoup plus large, par exemple une perspective post-conflit où il faut moduler les réparations en fonction d'autres intérêts qui sont en jeu, qui ne sont pas nécessairement juridiques et qui ne sont pas juste réparés, qui sont aussi empêcher, bah déjà lutter contre l'impunité, empêcher les prévenir de futurs conflits, etc. Donc c'est une perspective que j'intègre dans la question de la réparation. S'agissant maintenant du cadre juridique, donc le droit à la réparation, il est finalement posé. Je vous ai mis les trois principaux documents dans les trois principales disciplines qui nous intéressent ici, qui sont le droit international général de la responsabilité, les droits de l'homme, donc ça c'est un document qui est venu codifier, mais qui n'est pas contraignant, mais ça explique un peu la pratique en la matière. Et puis, qui est important, c'est le système de la Cour pénale internationale qui prévoit un mécanisme d'indemnisation des victimes. Donc il y a déjà un droit à la réparation plus ce fonds d'indemnisation. Et ce n'était pas évident en soi, puisque le droit pénal, normalement, ça s'occupe de juger les auteurs de crimes. Or, là, on est aussi dans la réparation des victimes. Donc, en tout cas, le droit à réparation est assez bien posé. Ce n'est pas forcément un défi. Tous ces instruments, ils ont plus ou moins les mêmes mesures. Ils proposent les mêmes mesures. Alors, pas exactement, mais ça, ce sont des détails. Qui sont la restitution. Donc, la restitution, c'est très pertinent si on veut parler de la restitution des terres des peuples autochtones. Ça peut aussi être pertinent si on reprend l'exemple de l'Holocauste avec tout l'art pillé, et on le voit encore aujourd'hui. Par contre, ça pose aussi la difficulté d'identifier les victimes, de les retrouver. Si la restitution n'est pas possible, on a la compensation qui est financière. Alors là, comme on disait, c'est réparer l'irréparable. Normalement, la compensation, ça devrait être pour des dommages qui sont financièrement évaluables. Bon, en l'occurrence, ça se fait quand même pour d'autres violations de droits de l'homme, notamment le droit à la vie, donc il ne faut pas l'écarter. La satisfaction est une des mesures, à mon avis, les plus pertinentes parce que c'est aussi celle qui permet d'innover le plus. Donc, on peut penser aux mesures de mémorialisation, on peut penser aussi aux excuses publiques, etc. Puis, il y a une jurisprudence très intéressante de la Cour interaméricaine des droits de l'homme là-dessus, et notamment sur le dommage culturel, que le juge Cansado Trindade a appelé le dommage spirituel, où non seulement on va accorder donc des compensations financières pour dommage moral, pour préjudice moral, mais en plus, il va y avoir des obligations positives imposées aux États, par exemple, de diffuser la culture du groupe qui a été victime. Donc ça, c'était la Replante Sanchez, par exemple. Bon, et ensuite, garantie de non-répétition, c'est aussi pertinent. Réhabilitation, c'est quelque chose de plus psychosocial, qui est aussi extrêmement pertinent si on reprend l'exemple de la revitalisation dont je parlais, des peuples autochtones qui ont été marginalisés pendant plusieurs siècles, etc., ça peut être intéressant. Donc, en fait, tout ça pour dire que le droit international tel qu'il est peut-être... On n'a pas forcément besoin de changer grand-chose, puisque ce sont des mesures qu'on peut interpréter de manière très large. Et là, je vais juste vous ouvrir la discussion. C'est un petit peu déconnecté, mais pas tant que ça, avec une étude de cas qui est le cas bosnien. Donc, j'en ai beaucoup parlé avec la jurisprudence du tribunal sur l'ex-Yougoslavie. C'est pas tant que ça va nous apporter des réponses juridiques, mais que ça va mettre les défis que je vous exposais un peu plus en lumière, puisque donc, comme je vous le disais, on parle d'une campagne donc, de nettoyage ethnique, c'est le terme qui a été utilisé, sauf qu'on parlait d'un état pluriethnique à la base en Bosnie-Herzégovine, avec trois principaux groupes de population, les bosniaques musulmans, les serbes orthodoxes et les croates catholiques, sachant que c'est pas aussi clair que ça, mais c'est comme ça qu'on l'a décrit. Et finalement, avec l'implosion de la Yougoslavie, ça a créé des tensions ethniques et le conflit s'est ethnicisé en fait. Et c'est cette idée d'exacerbation des identités qui est intéressante, puisque ça a conduit à ce que de nombreux crimes soient commis. On en connaît, on a revu les camps de concentration, etc. Et puis donc cette fameuse destruction systématique de ce patrimoine. Donc c'est intéressant de regarder les objectifs de cette destruction pour essayer de réfléchir un peu plus sur comment la reconstruction, comment la réparation pourrait être mise en œuvre. Donc les objectifs, c'était l'intimidation à long terme. Alors tous ces termes-là, c'est des termes dans la littérature, ce ne sont pas les miens, mais ils sont à mon avis intéressants. C'était le fait que les populations quittent et ne reviennent pas. Par cela même, on allait effacer le passé. L'idée que ce patrimoine, c'était le passé de ces populations, donc qu'elles ne reviennent pas, qu'elles ne retrouvent pas. Et souvent, par exemple, si on prend le cas des mosquées, elles ont parfois été remplacées par des églises orthodoxes. Donc pour bien marquer que on changeait d'histoire pratiquement. Et puis on a aussi parlé de destruction de la coexistence, qui est un petit peu différent. Et ça s'attache plus à ce qu'on appelle le patrimoine culturel, comme ce fameux pont de Mostar, mais on parle aussi de la bibliothèque de Sarajevo, où ce n'était pas forcément des objets qui étaient, appartenaient à une communauté en particulier ou dans laquelle une communauté en particulier s'identifiait, mais c'était plus aussi le fait que de dire, bon, bah, ces édifices, ils montrent que ça a été un État pluriethnique, donc on les supprime, et puis derrière, on peut reconstruire sur une manière un peu plus homogène. Donc quand on prend ça en compte, les objectifs de la réhabilitation, c'est le terme qu'on emploie dans le cas bosnien, c'est le retour des réfugiés, qui est un des principaux objectifs, pardon, du cadre post-conflit en Bosnie, l'établissement d'une sorte de mémoire commune, et puis cette fameuse notion de réconciliation qui est assez difficile à définir. C'était quoi le cadre juridique? Puisqu'il y a quand même eu, donc il n'y a pas eu de réparation à proprement parler, notamment pas pour ces questions culturelles, mais il y a eu quand même quelques règles qui ont été élaborées, notamment dans le cadre des accords de Dayton. Donc c'est l'accord de paix qui a mis fin au conflit, qui a été signé en décembre 1995. Et il y a deux instruments qui sont particulièrement pertinents en la matière et qui, à mon avis, peuvent être pris comme modèle pour d'éventuels futurs accords de paix où il y aurait encore à gérer ces questions de patrimoine. D'abord, il y a l'approche par les droits humains. Et on reconnaît beaucoup en fait, l'approche du droit international entre droits humains et patrimoine culturel. Donc l'approche par les droits humains, c'est l'établissement d'une chambre bosnienne des droits de l'homme qui a été en œuvre entre 1999 et 2003, puis qui a perduré un peu par la suite sous d'autres formes et qui visait à substituer la Cour européenne des droits de l'homme puisque la Bosnie n'était pas encore partie à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est un organe internationalisé, il y a des juges internationaux et bosniens. Et il y a eu un certain nombre de cas qui ont été portés devant cette chambre sur la question des obstacles qui étaient posés à la reconstruction du patrimoine religieux, notamment par la communauté islamique de Bosnie-Herzégovine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chambre, elle n'avait pas le mandat pour juger des violations commises avant 1995, avant les accords de Dayton, juste sur les violations commises après. Donc elle ne pouvait pas juger de la responsabilité des autorités sur la destruction des monuments, mais seulement sur les entraves qui étaient posées à la reconstruction. Sauf que dans ce contexte-là, elle a fait beaucoup de... Elle a été assez innovante, puisque elle a reconnu que le droit de propriété avait été violé, que c'était des violations de droits de l'homme qui étaient continues, que le droit à la religion, à la liberté de religion avait été violée, qu'il existait un droit au patrimoine culturel, donc ça c'est assez innovant, parce que c'est encore émergent en droit international. Donc elle a systématiquement condamné les autorités qui posaient les entraves administratives à la reconstruction. Par contre, quand il s'agit de réparation, elle a été beaucoup moins téméraire, et là c'est là où c'est sans doute pas l'exemple à reprendre. Déjà, elle ne pouvait pas indemniser sur la destruction en soi, seulement sur le préjudice après, donc c'était surtout un préjudice qui était moral. Donc les communautés n'ont pas reçu beaucoup d'argent, ce qui les a un peu forcés à se tourner vers d'autres sources de financement. Et ça a pu avoir des conséquences qui ont pu être décrites comme néfastes, notamment du point de vue des architectes, puisque si on reprend le cas des mosquées, certaines ont été reconstruites un peu à la va-vite avec des financements du Proche-Orient. Mais ce n'est pas encore la faute que de la Cour, évidemment. Et puis surtout, il y a eu des affaires où les mosquées, je prends l'exemple des mosquées, mais il n'y avait pas que des mosquées, hein, mais les mosquées avaient été reconstruites avec d'autres édifices, soit des édifices commerciaux, soit un cas avec une église orthodoxe. Donc celui-là était très sensible. Sauf qu'elle n'a pas forcément fait la distinction. En général, elle a toujours décidé que ces édifices étaient là et que pour perpétuer la paix sociale, on ne pouvait pas les détruire, on ne pouvait pas les déplacer. Donc elle donnait une petite indemnisation à la communauté, mais finalement, la communauté ne récupérait pas sa terre. Sa terre. Donc ça, c'est l'aspect un peu problématique de la jurisprudence de cette chambre. La deuxième approche qui est mise en place par Dayton et qui est vraiment nouvelle aussi, c'est la mise en œuvre d'une commission de préservation des monuments nationaux, qui est une sorte de mini-UNESCO au niveau national, mais qui ne fonctionne pas du tout comme l'UNESCO, puisqu'elle a une vision beaucoup plus large de ce que peut être le patrimoine. Alors, ils parlent, eux, de monuments nationaux. Le but de cette commission, c'était justement de recréer un peu une sorte de... pas forcément de mémoire, mais en tout cas de trouver des monuments qui sont nationaux, qui représentent le pays dans son ensemble, et pas juste les entités qui ont été créées par Dayton. Donc on voit ces lignes administratives. Et donc ça a été considéré comme un outil de réconciliation, et il y a de plus en plus de critiques qui sont formulées vis-à-vis de cette commission, puisqu'elle a une tendance à... Donc elle doit lister des monuments comme monuments nationaux, et puis ensuite donner des ordres sur la question de la réhabilitation. Et elle donne de plus en plus de plus en plus, les obligations financières sont importantes pour les deux entités, puisque c'est les entités qui doivent mettre en œuvre. Et Donc, il y a de plus en plus de résistance à la, vis-à-vis de la mise en œuvre de ces mesures. Et c'est surtout qu'elle a listé un nombre impressionnant de monuments. Et certains se plaignent que finalement, on perd un peu la notion de patrimoine derrière toute cette histoire, parce que parfois, on a vraiment des maisons qui, pas d'aspect extérieur, ont l'air assez communes et qui sont aussi listées, etc. Donc, en termes de réconciliation, c'est un peu limité, mais c'est encore une fois un instrument qui est intéressant dans... si on regarde qu'on était en 1995 à l'époque. Et je vais presque m'arrêter là, en fait, parce que je peux conclure assez rapidement, mais on va plutôt ouvrir la discussion. En fait, on a un peu dévié vers la fin, parce que c'est vrai qu'on parle moins de génocide culturel, mais c'était vraiment ce que je voulais... je voulais mettre l'accent là-dessus, que c'est la question du génocide culturel, comme je l'appelle, c'est pas tant de sa reconnaissance, à mon avis, en droit international, que de la question de la réparation. Et si on parle de la réparation, c'est quand même finalement la notion de justice qui est derrière. C'est comment justement on répare ces identités culturelles, ces sociétés. Et donc je pense que c'est vraiment un élément qui est important. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Elsa.